Bonjour Monsieur Lenoir, nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Collège Philippe de Comines.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'émérite et chercheur à l'Université de Tours. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est un myrmécologue?
Oui, je suis professeur émérite, pas démérite.
Ah.
Émérite, ça veut dire que j'ai été professeur à la faculté des sciences sur le plateau de Grammont, mais je suis à la retraite maintenant. Je ne fais plus de cours, mais je continue à faire de la recherche à titre bénévole. Voilà, donc je vais à la faculté tous les jours et je continue à travailler au laboratoire. Je continue à travailler sur les fourmis. Alors, un myrmécologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'étude des fourmis. Myrmex, ça veut dire fourmis. C'est un spécialiste des fourmis, donc il y a des professionnels comme moi, et il y a des amateurs qui s'intéressent aux fourmis, comme ça, juste pour la connaissance, pour les observer, etc. Donc moi, je travaille sur les fourmis depuis 45 ans, donc ça fait un moment.
En quoi consiste exactement votre travail et pourquoi vous spécialisez sur les fourmis?
Alors pourquoi se spécialiser sur les fourmis? Comme je le disais, ça fait très longtemps. Quand j'ai passé l'agrégation à la fin de mes études universitaires, on m'a proposé de venir à Tours pour faire étudier les fourmis. Et comme j'ai toujours été passionné par les insectes, je me suis dit les fourmis, ouais, super. Et puis quand j'ai commencé, j'ai jamais arrêté parce que c'est tellement passionnant qu'on découvre tout le temps de nouvelles choses. Alors le travail, ça consiste d'abord à aller dans la nature pour les voir, les récolter, etc. Les élever en laboratoire, les observer. On fait beaucoup d'observations, de films, des tests de comportement, c'est-à-dire que on met des fourmis dans des conditions particulières pour voir comment elles réagissent. Et actuellement, je travaille plutôt sur des versants chimiques, c'est-à-dire comment elles se reconnaissent, on en reparlera tout à l'heure, comment elles se reconnaissent avec des substances qu'elles portent sur leur carapace.
On qualifie les fourmis d'insectes sociaux. Qu'entend-on par là?
Ça veut dire une vie sociale obligatoire, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas vivre isolément. Robinson Crusoe, il a vécu isolément sur son île, donc c'est pas comme les fourmis. Une fourmi isolée, elle est perdue, et elle va mourir plus ou moins vite. C'est un peu comme les abeilles ou les guêpes ou les termites qui sont tous des insectes sociaux. Alors en plus de cet aspect-là, il y a un aspect division des tâches. Dans la fourmilière, il y a une reine qui pond, et elle ne fait que ça. Tous les autres individus, les fourmis ouvrières, elles vont s'occuper des tâches, chercher la nourriture, s'occuper des larves, etc.
Où et quand ont-elles commencé à se développer? Quelles sont leurs phases de développement?
Tu veux dire par là depuis quand elles existent, les fourmis,
Oui.
dans l'histoire de la vie? Alors en gros, on dit qu'elles ont à peu près 100 millions d'années. C'est-à-dire au moment du Crétacé. Peut-être il y a des formes un peu plus anciennes qui viennent, pense probablement peut-être 140 millions d'années, mais c'est relativement récent dans l'histoire de la vie. Vraiment, la diversification des fourmis a commencé au moment de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années, c'est-à-dire au moment de la diversification des plantes à fleurs. Avant, il n'y avait que des conifères, des choses comme ça. Il n'y avait pas de fleurs vraiment. Enfin, il y a des fleurs, mais elles sont cachées. C'est différent. Donc les vraies plantes à fleurs sont apparues, en gros, il y a 65 millions d'années. À partir de cette époque, on trouve beaucoup de fourmis fossiles dans la résine. La résine des sapins, là, les fourmis se collent dedans. Elles restent fossilisées, comme beaucoup d'autres insectes d'ailleurs. Hein. On trouve des... Il y a en Charente, par exemple, pas loin d'ici, il y a des gisements de résine fossile où on a décrit de très très nombreuses espèces d'insectes, y compris des fourmis. Alors, les phases de développement, on pense que les fourmis descendent de guêpes primitives. Donc, ça a évolué pendant cette période-là, il y a 100-150 millions d'années.
Combien y a-t-il d'espèces de fourmis dans le monde, en France?
Alors, dans le monde, on en connaît 12 000, ce qui n'est pas énorme. Il y a beaucoup d'insectes où il y a probablement plus d'un million d'espèces d'insectes. Donc, les fourmis ne sont pas très très nombreuses au sens propre. En France, c'est 180, surtout dans le sud. Plus on va vers le sud, plus il y a des espèces différentes. En forêt tropicale, là, je rentre par exemple de Guyane. Je suis allé chercher les fourmis en forêt tropicale. Il y a des fourmis partout, et des tas d'espèces différentes. C'est foisonnant, c'est une véritable biodiversité, c'est un mot à la mode. Plus on va vers le sud, plus la biodiversité est importante.
Où la fourmi est-elle construite? Sur terre ou sous terre? Sur quel sol?
Il y a des fourmilières partout. Il y en a sous terre, il y a des espèces qui sont toujours sous terre, qui ne sortent jamais. Il y en a qui sont sous terre et les fourmis sortent et vont fourrager, chercher la nourriture sur le sol ou même sur les arbres. Il y a des fourmis dans les arbres, complètement dans les arbres, même en forêt tropicale à 60-70 mètres de hauteur, il y a encore des fourmilières. Alors on les trouve dans tous les milieux, sauf là où ils gèlent en permanence. Donc au pôle nord, au pôle sud, il n'y a pas de fourmis. En Sibérie, là où la terre est tout le temps gelée, il n'y a pas de fourmis. Et en montagne, quand on va dans les Alpes, à partir de 3500-4000, il n'y a pratiquement plus de fourmis, il fait trop froid. Mais sinon, c'est vraiment partout, partout, partout. Sauf dans l'eau, il n'y a pas de fourmis aquatiques.
Mais dans une fourmilière, où sont orientées les ouvertures ?
Ben, vous faites allusion, je pense, aux fourmis en dôme qu'on voit dans les bois, qu'on en voit un peu en Touraine. Hein. Elles sont souvent situées au bord des chemins et les ouvertures sont orientées vers la lumière et vers le soleil. Ça permet de faire une thermorégulation, de faire entrer la chaleur au printemps et à l'automne. Et à l'été, elles ferment pour que la chaleur ne rentre pas trop.
Où stockent-elles leur nourriture rapportée et qu'est-ce qu'elles en font ?
Alors, la nourriture rapportée, elle est en général pas stockée. C'est-à-dire qu'elle est consommée immédiatement. Ça peut être des proies, des insectes morts, ça peut être du miella, du sucre des pucerons. Les pucerons percent avec leur trompe la peau de la plante pour absorber la sève. Cette sève est transformée, mais ils en fabriquent trop, donc c'est rejeté par l'abdomen, par l'anus, et les fourmis se régalent parce qu'il y a du sucre et des acides aminés dedans. C'est pas stocké, c'est consommé immédiatement. Les proies aussi, ça se garde pas. Les seuls cas de stockage sont les graines. Il y a des fourmis moissonneuses qui rapportent des graines. Donc elles sont stockées quelques semaines, quelques mois dans des chambres spéciales dans la colonie. Il n'y a pas vraiment de réserve dans la colonie. En hiver, par exemple, comme en ce moment, elles sont enterrées et elles vivent au ralenti.
Avec quels matériaux construisent-elles la fourmilière ?
Alors ça dépend des espèces, là aussi, ça peut être très variable. Le plus souvent, ce n'est pas des matériaux spéciaux, c'est quand c'est creusé dans la terre, elles creusent et puis elles font des galeries, des chambres, etc. Elles ressortent les grains de sable, les grains de terre à l'extérieur pour pouvoir creuser. Sinon, quand elles utilisent des matériaux, c'est les aiguilles de pin, comme les fourmis des bois, des petites brindilles. Alors sinon, il y a d'autres espèces qui construisent des nids en forêt tropicale, dans les arbres avec des feuilles. Il y en a qui font des nids en carton aussi. Elles prennent des morceaux de feuilles sèches qu'elles mâchent, et avec la salive, ça fait du carton. Chez nous, c'est rare, ça. Mais on voit surtout ça en milieu tropical.
Mais ils mettent beaucoup de temps pour construire ces fourmilières ?
Une saison, c'est-à-dire c'est quelques semaines au printemps, par exemple. Les fourmis qui font des petits dômes de terre, en quelques semaines, elles ont construit leur dôme. Sinon, les grandes fourmilières en dôme des bois, là, c'est des dômes permanents. C'est en permanence réajusté. Elles reconstruisent, elles sortent les déchets, elles ramènent des nouvelles brindilles, etc.
Comment se répartissent les fourmis dans la fourmilière, à part la reine qui fait que de pondre des œufs ?
La reine est en général tout à fait au fond, dans les chambres les plus profondes, parce que c'est là où la température est stable, régulière, l'humidité est régulière. Et puis elle est protégée, elle est à l'abri si jamais il y a un oiseau qui arrive ou un prédateur. Elle est protégée au fond. Donc au fond, on trouve la reine avec les chambres d'élevage des petites larves. Puis après, au fur et à mesure qu'on monte, on va trouver des larves plus grosses. Les larves plus âgées sont ramenées en haut pour être chauffées au soleil, pour se développer plus vite. Mmh.